Chapitre 28. Mélanie. Le week-end fut fort calme. Le dimanche, Anne nous prépara un très bon dîner. Ses côtelettes de porc farcies étaient excellentes, mais j'ai trouvé qu'elle avait tendance à trop faire cuire les légumes. Pendant que Vincent débarrassait la table, Anne et moi avons bu du thé dans des tasses provenant de son plus beau service en porcelaine. J'ai repensé à mon service Wedgwood, qui devait se couvrir de poussière à Charleston et éprouver un pincement de chagrin et de nostalgie. J'étais trop fatiguée pour faire sortir Vincent ce soir-là. En dépit de la curiosité que m'inspirait cette photographie, cela pouvait attendre. Le plus important pour le moment, c'était les voix de la nurserie. Elles devenaient un peu plus claires chaque soir. Elles étaient presque compréhensibles à présent. La veille au soir, après avoir baigné Vincent et avant de m'endormir, j'étais parvenue à distinguer des voix individuelles parmi les murmures. Il y en avait au moins trois. Un garçon et deux filles. Il n'était pas si invraisemblable d'entendre des voix d'enfants dans une nurserie vieille de deux siècles. Le dimanche soir, un peu après 9 heures, Anne et Vincent sont retournés à Grumblethorpe avec moi. Des sirènes hurlaient non loin de là. Après avoir fermé portes et fenêtres, j'ai laissé Anne au salon, Vincent à la cuisine, et suis montée à l'étage. La nuit était glaciale. Je me suis glissée sous les couvertures et j'ai contemplé les résistances du radiateur qui luisait dans la pièce obscure. Les yeux de l'enfant mannequin reflétaient la lumière et ses rares touffes de cheveux émettaient une lueur orange. Les voix étaient très distinctes. Le lundi, j'ai fait sortir Vincent. Je n'aimais pas le savoir dehors en plein jour. Le quartier était mal famé. Mais il fallait que je sache d'où venait cette photographie. Vincent était armé de son couteau et du revolver que j'avais emprunté au chauffeur de taxi d'Atlanta. Il resta assis pendant plusieurs heures sur la banquette arrière défoncée d'une voiture abandonnée, regardant passer les adolescents de couleur. À un moment donné, un poivreau mal rasé colla son visage à la vitre et lui hurla je ne sais quoi, mais Vincent ouvrit la bouche, siffla, et le poivreau eut vite fait de disparaître. Finalement, Vincent aperçut un visage connu. C'était le troisième garçon. Celui qui avait réussi à s'enfuir le samedi soir. Il était accompagné d'un adolescent corpulent et d'un troisième garçon plus âgé. Vincent les laissa prendre un pâté de maison d'avance, puis les suivit. Ils passèrent devant la maison d'Anne et continuèrent en direction du sud vers un canyon artificiel occupé par la ligne de chemin de fer qui desservait la banlieue. Une rue étroite le longeait d'est en ouest. Là, les trois garçons pénétrèrent dans un immeuble de rapport abandonné. Il s'agissait d'une étrange caricature des demeures d'avant la guerre de sécession. Quatre colonnes disproportionnées tombant d'un avant-toit plat, de hautes fenêtres aux linteaux pourrissants, et les vestiges d'une grille en fer forgé, délimitant un terrain envahi de mauvaises herbes et de boîtes de conserve rouillées. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient condamnées et la porte principale fermée par une chaîne. Mais les garçons se dirigèrent vers un soupirail, à la vitre brisée et aux barreaux tordus. Et ce fut par là qu'ils se faufilèrent à l'intérieur. Vincent retourna chez Anne au pas de course, suivant mes instructions. Il prit le large oreiller de plume sur le lit d'Anne, le fourra dans son sac à dos et repartit en courant vers l'immeuble situé à 4 pâtés de maison de là. Le temps était gris et maussade. Quelques flocons tombaient par intermittence du ciel bas. L'air sentait les gaz d'échappement et le tabac froid. Il n'y avait guère de circulation. Un train passa dans un grondement alors que Vincent glissait le sac à dos par la fenêtre brisée et entrait à son tour dans l'immeuble. Les garçons se trouvaient au 2e étage, rassemblés en cercle au milieu des gravats et des flaques d'eau glacée. Les fenêtres étaient brisées et on apercevait des bribes de ciel gris à travers le plafond pourri. Les murs étaient entièrement recouverts de graffitis. Les trois garçons étaient agenouillés, comme en adoration devant la poudre blanche qui bouillonnait dans les cuillères au-dessus d'un petit réchaud. Leur bras gauche était nu, leurs biceps comprimés par une bande de caoutchouc. Des seringues étaient posées devant eux sur des chiffons sales. J'observais la scène par les yeux de Vincent et me rendis compte que ceci était un sacrement. La plus sacrée des cérémonies de la nouvelle église du désespoir des nègres urbains. Deux des garçons levèrent les yeux et virent Vincent alors qu'il sortait de sa cachette, tenant l'oreiller devant lui à la façon d'un bouclier. Le plus jeune, celui que nous avions laissé échapper le samedi soir, amorça un cri au moment même où Vincent faisait feu dans sa bouche grande ouverte. Des plumes s'échappèrent de l'oreiller et se mirent à volter comme des flocons tandis que s'élevait une odeur de duvet roussi. Le plus âgé des trois garçons pivota sur ses genoux et tenta de s'enfuir à quatre pattes, dérapant sur les gravats. Vincent tira à deux reprises. La première balle atteignit le garçon à l'estomac. La seconde manqua son but. Le garçon roula sur lui-même, agrippant son ventre des deux mains et frétillant comme une créature marine rejetée sur un rivage inhospitalier. Vincent plaqua l'oreiller sur le visage terrifié du nègre, y enfonça le revolver et tira de nouveau. Après un dernier spasme, le garçon cessa de bouger. Vincent leva son arme et se tourna vers le troisième. C'était le plus corpulent. Il était resté à genoux devant le réchaud, une seringue au-dessus de son bras gauche, les yeux écarquillés. Son visage noir et bouffi était figé dans une expression de terreur sacrée. Vincent rempocha son revolver et fit jaillir la longue lame de son couteau. Le garçon se mit à bouger lentement, exagérant chacun de ses mouvements comme s'il était sous l'eau. Vincent lui décocha un coup de pied dans le front, le faisant tomber en arrière et s'agenouilla sur sa poitrine. La seringue roula sur le sol crasseux. Vincent inséra l'extrémité de sa lame sous la peau du garçon, juste à droite de sa pomme d'Adam. Ce fut à ce moment-là que je pris conscience du problème. Je consacrais déjà la quasi-totalité de mon énergie à maîtriser Vincent. J'avais besoin de ce garçon pour avoir des précisions au sujet de la photographie. Qui l'avait introduite à Philadelphie? Comment cette racaille de couleurs était entrée en sa possession? Et qu'en attendait-il? Mais Vincent ne pouvait lui poser aucune question. J'avais vaguement envisagé d'utiliser directement ce garçon, mais cela me semblait à présent hors de question. Il est possible d'utiliser un sujet que l'on n'a jamais vu par soi-même. Difficile, mais possible. Je l'avais déjà fait à maintes occasions, par exemple quand j'utilisais un pion conditionné pour entrer en contact avec un sujet. Dans le cas présent, la difficulté était double. Premièrement, il est extrêmement difficile, sinon impossible, d'interroger une personne tout en l'utilisant. Bien que l'on puisse avoir un aperçu des pensées du sujet, surtout durant la seconde où s'établit le contact, l'annihilation de sa volonté, absolument nécessaire si on veut l'utiliser, inhibe ou élimine totalement tout processus rationnel de son esprit. Je ne pourrais plus jamais lire les pensées de ce gros nègre. Pas plus qu'il ne pourrait déchiffrer les miennes. L'utiliser équivaudrait à prendre place dans un véhicule répugnant, mais nécessaire, pour parcourir une courte distance. Il me conduirait à destination, mais ne pourrait répondre à mes questions. Deuxièmement, si je me concentrais suffisamment pour utiliser le garçon, pour l'amener chez Anne, par exemple, je n'étais pas sûr que le conditionnement de Vincent l'empêche d'obéir à ses impulsions et de trancher la gorge du nègre. Dilemme. Finalement, j'ordonnai à Vincent de tenir le garçon à l'œil pendant que j'envoyais Anne les rejoindre. Je ne me sentis guère à l'aise une fois seule, même à Grumblethorpe, mais je n'avais guère le choix. Je ne voulais pas conduire le garçon vers l'un de nos deux repères, car Vincent ou lui risquait d'être vu. Anne prit sa deux sauteaux et la gara au bout de la rue, prenant soin de verrouiller les portières. Comme elle aurait eu des difficultés à entrer par le soupirail, j'ordonnai à Vincent d'entraîner le garçon au rez-de-chaussée, où ils firent sauter le verrou d'une porte latérale. Il faisait très sombre dans la pièce où Anne s'installa pour l'interroger. « D'où vient la photographie ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent un peu plus et il s'humecta les lèvres. « Quelle photographie ?» Vincent lui asséna un violent coup de poing dans le ventre. Le nègre hoqueta, se débattit. Vincent plaqua son couteau sur sa gorge à vif. « La photographie de la vieille dame. Un des garçons qui sont morts samedi l'avait sur lui, dit doucement Anne. Comme elle était conditionnée, il m'était facile de l'utiliser tout en contrôlant Vincent.
Vous voulez dire la sorcière vaudou ?
Hoqueta le garçon.
Mais c'est pas vous !
Anne sourit en même temps que moi.
Qui est la sorcière vaudou ?
Le garçon essaya de déglutir. Son expression était comique.
C'est à cause d'elle que le monstre, que ce type fait ce qu'il fait. C'est ce qu'a dit la femme.
Quelle femme ?
Celle qui parle d'une drôle de façon.
Comment parle-t-elle ?
Vous savez,
le garçon haletait comme s'il venait de courir un 100 mètres.
Comme le gros flic blanc, comme s'il venait du sud.
Et c'est elle qui vous a donné cette photographie, ou bien est-ce le policier corpulent ?
C'est elle, il y a 3 jours. Elle cherche la sorcière vaudou. Quand Marvin a vu la photo, il s'est rappelé tout de suite. Maintenant, on la cherche tous.
La femme sur la photographie, la sorcière vaudou.
Ouais.
Le garçon fit mine de se dégager. Vincent le frappa à la tempe du plat de la main, le fit pivoter sur lui-même, le plaqua contre le mur à 2 reprises et le souleva par le devant loqueteux de sa chemise. La lame du couteau n'était qu'à 2 centimètres de l'œil du nègre.
« Nous avons encore à parler, » dit doucement Anne.
« Vous allez me dire tout ce que je souhaite savoir. » Le garçon s'exécuta. En fin de compte, je fis sortir Vincent de la pièce avant d'utiliser le garçon. Je ne rencontrai aucune difficulté. Il m'était impossible de reproduire sa démarche exagérément molle, mais cela n'était pas nécessaire. Je devais par contre respecter sa façon de s'exprimer. Le ton de sa voix, son vocabulaire, sa syntaxe. Je l'obligeai à parler à Anne pendant plus 1 heure avant de l'utiliser directement. Il ne m'opposa aucune résistance. J'eus d'abord quelques difficultés à reproduire sa voix et son phrasé, mais en relâchant mon étreinte mentale, je permis au dialecte qu'il parlait d'émerger de son subconscient et je réussis à m'exprimer par son entremise d'une façon que j'espérais crédible. Anne ramena Vincent et le garçon, Louis, non loin de Grumblethorpe et les déposa au coin de la rue. Vincent disparut pendant quelques minutes et revint avec des cartouches pour son revolver. Je renvoyai Louis à la Community House pendant que Vincent descendait dans le tunnel et qu'Anne reconduisait sa voiture dans le garage derrière sa maison de Queen Lane. Les membres du gang se laissèrent berner sans problème. Je sentis à 2 ou 3 reprises que je perdais le contrôle de Louis, mais je lui ordonnai de faire semblant d'avoir mal à la gorge, et ma présence passa inaperçue. Je reconnus tout de suite le chef de la bande, Marvin. C'étaient ses yeux bleus qui m'avaient regardé avec tant de morgue le soir de Noël, lorsque je gisais dans les crottes de chien. Il me tardait de régler mes comptes avec ce garçon. En plein milieu de la discussion, alors que je commençais à me sentir en sécurité, une jeune femme noire en retrait de la foule demanda «
Vous l'avez reconnue grâce à ma photo ?»
Et je faillis perdre le contrôle de Louis. Sa voix était exempte de cet horrible accent nordiste. Elle me rappela mon pays. À côté d'elle, enveloppée dans une couverture grotesque, se trouvait un homme blanc dont le visage me parut très familier. Il me fallut 1 minute pour me rendre compte que lui aussi venait sans doute de Charleston. Il me semblait avoir vu sa photographie dans un des journaux du soir de Mrs. Hodges, plusieurs années auparavant. Quelque chose au sujet d'une élection.
« Ça a l'air trop facile, » disait Marvin. « Et les flics ?»«
La police. » Louis m'avait déjà informé de la présence d'officiers en civil dans le quartier. Pas plus que moi, il ne savait ce qu'il faisait là, mais je supposais que l'élimination de 5 personnes... même s'il ne s'agissait que de voyous, devait fatalement entraîner une réaction quelconque de la part des autorités. Les flics. Je fis le rapprochement dès qu'il prononça ce mot. Cet homme blanc au visage rougeau était un officier de la police de Charleston, le shérif, si ma mémoire était bonne. J'avais lu un article sur lui quelques années plus tôt.
« Hé, mec !» fis-je dire à Louis. « Setch m'a dit de te ramener tout de suite. Tu veux aller les voir, oui ou non ?»
Maintenant que je savais que deux personnes de Charleston me recherchaient, et que les rues grouillaient de policiers en civil, je sentais monter en moi une certaine angoisse. Mais ce sentiment était contrebalancé par un frisson proche de la jubilation. C'était passionnant. Je me sentais plus jeune à chaque heure qui passait. Le minutage était très délicat. Vincent plaça les cocktails Molotov dans les voitures abandonnées au moment précis où Louis conduisait le chef de la bande. Le shérif, dont je ne parvenais pas à me rappeler le nom, et six autres nègres dans une rue proche de l'immeuble de rapport. Je restais avec Vincent pendant qu'il faisait le tour de la community house, éliminait le voyou qui montait la garde derrière et gagnait l'étage armé de sa faux si encombrante. J'avais espéré que la fille accompagnerait Louis et les autres. Cela m'aurait grandement aidé. Mais j'avais appris depuis longtemps à accepter la réalité telle qu'elle était et non telle que je souhaitais qu'elle fût. Je voulais cependant cette fille vivante. Il y eut une brève lutte au premier étage de la community house, juste au moment où Louis avait besoin de toute mon attention. Je me retrouvais obligé de maîtriser Vincent de peur qu'il ne soit trop brutal. Conséquence de cette anicroche temporaire, la fille s'enfuit dans les rues situées derrière le bâtiment. Je laissais Vincent se lancer à sa poursuite et retournais vers Louis, qui chancelait sur le trottoir, non loin de l'immeuble de rapport. « Qu'est-ce qui t'arrive, mec ?» demanda le chef de la bande, Marvin, quelque chose. « Rien, mec, » fis-je dire à Louis. « Mal à la gorge. »« T'es sûr qu'ils sont là-dedans ?» demanda le garçon dénommé Leroy. « J'entends rien. »« Ils sont au fond. » fis-je dire à Louis. Le shérif se trouvait près du seul réverbère en état de marche du pâté de maison. Apparemment, il n'était armé que d'un appareil photo semblable à celui que M. Hodges utilisait à la moindre occasion. Deux trains passèrent, invisibles dans leur canyon de béton. « Il y a une porte ouverte sur le côté, » dit Louis. « Venez, je vais vous montrer. » Quelques instants plus tôt, il avait ouvert la fermeture à glissière de son blouson. Sous le pull et la chemise de laine rêche, je sentais vaguement l'acier froid du revolver du chauffeur de taxi. Vincent l'avait rechargé peu de temps auparavant dans la ruelle obscure. Marvin hésita. « Non, » dit-il. « Leroy, Jackson et moi, on y va, et lui aussi. » Il désigna le shérif. « Louis, tu restes ici avec Cole, Trout, GR et GB. » Louis haussa les épaules. Le shérif me regarda un long moment avant de se retourner pour suivre Marvin et les deux autres vers la porte latérale. « Ils sont au deuxième étage, mec » fis-je crier à Louis. « Dans le fond !» Ils disparurent dans les ténèbres constellées de flocons. Je n'avais pas beaucoup de temps. Une partie de moi-même avait conscience de la chaude lueur du radiateur, et des yeux fixes du mannequin de la nurserie, une autre courait avec Vincent le long des ruelles enténébrées, entendait le souffle court de notre proie épuisée, tandis qu'une troisième partie devait consacrer son attention à Louis. L'adolescent nommé Calvin se balança d'un pied sur l'autre et dit « Merde, on se les gèle. T'as quelque chose à fumer, mec ?»« Ouais, » fis-je dire à Louis, « et c'est du bon. » Il plongea la main dans sa chemise, en sortit le revolver et logea une balle dans le ventre de Calvin à 50 centimètres de distance. Le grand échalas ne s'effondra pas. Il recula en trébuchant, posa une main sur le trou dans son manteau et dit « Merde, mec. » Les jumeaux écarquillèrent les yeux puis partirent en courant vers Queen Lane. Le dénommé Trout, un jeune homme d'une vingtaine d'années, sortit un revolver à canon long de son manteau. Louis pivota sur lui-même, leva son arme et lui tira dans l'œil gauche. Il n'y avait aucun moyen d'étouffer le bruit de la détonation. Calvin était tombé à genoux sur la chaussée, se tenant le ventre des deux mains et grimaçant d'un air agacé. Il saisit Louis par la jambe lorsque je voulus m'éloigner. Hé, bordel de Dieu, mec, pourquoi t'as fait ça ? Trois coups de feu furent tirés d'un groupe de voitures garées dans Queen Lane, là où les jumeaux s'étaient enfuis, et un projectile atteignit le bras gauche de Louis. Je bloquais toute douleur pour notre bénéfice mutuel, mais je sentis néanmoins le membre s'engourdir. Il leva son arme et la vida en direction de l'endroit d'où provenaient les coups de feu. Quelqu'un hurla. Une nouvelle balle siffla,
mais elle n'atteignit personne. J'ordonnai à Louis de laisser tomber le revolver et de déchirer le manteau de Calvin pour récupérer son fusil. Puis, il se dirigea vers Trout et s'empara du revolver qu'il serrait encore dans sa main. Trois autres coups de feu éclatèrent dans Queen Lane, et quelque chose cogna Calvin avec un bruit de maillet frappant un bœuf entre les deux yeux. Chose incroyable, il continua de s'accrocher à la jambe de Louis. Il ne cessait de répéter à voix basse. « Oh merde, mec, pourquoi ?» Louis l'écarta d'un coup de pied, empocha le revolver, saisit le fusil à canon scié et courut vers le mur latéral de l'immeuble de rapport. Aucun autre coup de feu ne retentit du côté de Queen Lane. Vincent avait coincé la fille dans ce qui restait d'une maison incendiée, non loin de Germantown Avenue. Immobile sur le seuil, il l'écoutait avancer à tâtons parmi les poutres calcinées et les escaliers effondrés à l'arrière du bâtiment. Les fenêtres étaient condamnées. Pour ce qu'il en savait, il n'y avait aucune autre issue que cette entrée. J'utilisais toutes les ressources de ma volonté pour forcer Vincent à faire un pas et à s'accroupir dans les ténèbres, où il tendit l'oreille, reniflant l'air, flairant la petite odeur douceâtre de la peur de la femme, agitant doucement la lame de sa faux. Louis franchit en hâte la porte latérale de l'immeuble de rapport pour éviter qu'on ne voie sa silhouette se découper à contre-jour. Les autres avaient dû entendre les coups de feu. Où trouver les cadavres au deuxième étage? Aucune détonation ne se fit entendre lorsque Louis s'avança d'un pas vif le long du couloir. Il s'arrêta devant la première pièce et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Aucune lumière. Quelque chose bougea dans le couloir, près de l'escalier principal, et Louis tira, le recul lui bousculant le bras droit. Il cala la crosse du fusil contre sa cuisse pour loger une nouvelle cartouche dans la chambre, puis s'accroupit, guettant les ombres. L'espace d'une seconde, deux images se superposèrent dans mon esprit. Deux jeunes gens, Vincent et Louis, séparés par plus d'un kilomètre de distance, accroupis dans une position presque identique, tendant l'oreille en quête du moindre bruit. Puis, il y eut un éclair, l'écho d'un grondement, une averse de plâtre tomba sur les joues de Louis, et Vincent et moi tiquâmes en même temps alors que j'ordonnais à Louis de courir vers l'éclair, de tirer, de recharger, de se remettre à courir. Un bruit de pas s'éleva sur les marches couvertes de débris. Quelqu'un poussa un cri au premier étage. Louis s'accroupit au pied de l'escalier pendant que je réfléchissais. Il ne m'était plus indispensable. Ses réflexes étaient déjà émoussés par le choc qu'il avait subi en recevant une balle dans le bras gauche. J'aurais adoré utiliser un des autres garçons présents dans l'immeuble, mais c'était trop demandé. Je dépensais déjà trop d'énergie à maintenir Anne en état d'alerte dans Grumblethorpe, à contrôler Vincent dans la maison brûlée et à conserver Louis en état de fonctionner. Je voulais ce nègre aux yeux bleus. Je le voulais de toutes mes forces. Je voulais aussi revoir le shérif, me rapprocher le plus possible de lui. J'avais des questions à lui poser, et peut-être des choses à lui faire faire une fois qu'il y aurait répondu. Un canon jaillit sur le palier, et un morceau de rampe vola en éclats. Louis se tassa un peu plus sur lui-même. Ils étaient quatre. Marvin, qui avait chargé un lourd revolver, et éclaté de rire quand le shérif lui avait demandé de le lui rendre. Leroy, le barbu, qui était armé d'un fusil à canon scié identique à celui que Louis tenait dans ses mains. Le shérif, qui ne disposait apparemment d'aucune arme. Et Jackson, le plus âgé des nègres, qui portait une sacoche bleue. En outre, GB et GR, les jeunes jumeaux, risquaient de revenir d'une minute à l'autre avec leurs petits pistolets bon marché. Louis monta l'escalier 4 à 4, trébucha, rata une marche et s'affala sur le palier du premier étage. Un fusil rugit à 5 mètres de distance. Quelque chose déchira le cuir chevelu de Louis et le côté gauche de son visage. Je bloquai la douleur, mais lui fis lever une main pour tâter sa joue et son oreille gauche. L'oreille avait disparu. Louis leva son fusil à canon scié et tira en direction de l'éclair. « Bon Dieu de merde !» hurla une voix noire que j'attribuais à Leroy. Un revolver aboya dans la direction opposée et une balle transperça la cheville de Louis
avant d'aller se loger dans une lame du parquet. Je le forçai à courir vers l'éclair du coup de feu et à recharger son fusil en le calant contre son torse. Quelqu'un se mit à courir dans le couloir obscur, puis glissa et tomba à grand fracas. Louis fit halte, discerna une ombre moins obscure que la pénombre ambiante, leva son arme. La silhouette roula dans le rectangle noir d'une embrasure de porte au moment où Louis tirait. L'éclair de la détonation nous permit d'apercevoir Marvin, qui s'éclipsait en même temps que l'embrasure de porte volait en éclats. Louis rechargea, glissa le fusil de l'autre côté du mur et appuya sur la détente. Rien. Il rechargea à nouveau, tira à nouveau. Rien. Alors que je lui ordonnais de jeter l'arme inutile, il eut un éclair et une balle lui fracassa la clavicule gauche, le faisant pivoter sur lui-même. Il heurta un mur et glissa jusqu'au sol, sortant le revolver de sa poche dans sa chute. Il y eut un autre coup de feu, trop haut, qui atteignit le mur 1 mètre au-dessus de sa tête. Je l'aidai à viser soigneusement, très soigneusement, l'endroit exact où avait jailli l'éclair. Le revolver refusa de fonctionner. Louis chercha le cran de sûreté à tâtons, le trouva, le libéra. Il tira à 2 reprises, puis roula sur lui-même et se releva en s'appuyant sur son bras blessé. C'est alors qu'il heurta quelqu'un. Il sentit l'air quitter ses poumons, sentit que l'autre avait également le souffle coupé, alors même que tous deux s'effondraient dans un coin de la pièce. Je reconnus le shérif à sa corpulence. Je levai le revolver jusqu'à ce qu'il touche sa poitrine. Une lumière explosa devant nos yeux. Louis recula, et je vis apparaître l'image figée du shérif, en train de déclencher le flash électronique de son appareil photo. Il y eut un 2e flash, un 3e. Louis cligna des yeux pour essayer d'en chasser les images rémanentes, et je le forçai à se tourner vers la véritable menace, à lever son arme, mais trop tard. Alors même qu'il faisait volte-face en plissant les yeux, le chef de la bande empoignait la crosse de son revolver des 2 mains et tirait. Tirait. Je ne sentis aucune douleur, mais perçus l'impact de la 1re balle qui atteignit Louis au bas-ventre, et de la 2e qui l'atteignit à la poitrine, lui fracassant les côtes. J'aurais continué à l'utiliser si la 3e balle ne l'avait pas atteint en plein visage. Il y eut un bruit violent et précipité, et je perdis le contact. J'ai maintes fois fait l'expérience de la mort d'un sujet que j'utilisais, mais cela reste une expérience troublante, un peu comme lorsqu'une conversation téléphonique est brutalement interrompue. Je me reposais un moment, ne percevant que le sifflement du radiateur, le visage écaillé du mannequin, grandeur nature, et les murmures à présent audibles des murs de la nurserie. « Mélanie, disait-il. « Mélanie, tu es en danger. Écoute-nous. » Je les écoutais tout en concentrant mon attention sur Vincent. Plus aucun bruit, ou presque, ne venait du fond de la maison qui puait le charbon. La fille était prise au piège. Je sentis une giclée d'adrénaline parcourir le corps puissant de Vincent lorsqu'il se redressa, vérifia le mortel équilibre de sa faux et se dirigea vers elle dans les ténèbres, lentement. Et sûrement.